Star Trek pour les nuls. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls. Épisode tout particulier puisqu'on reçoit à nouveau Ratel Rock. Salut Ratel, comment ça va?
Ça va.
Je t'ai pas demandé avant d'enregistrer si j'avais le droit de t'appeler Ratel. On peut t'appeler Ratel?
Oui, Ratel, bah oui, ça généralement va, okay. Les gens...
On peut t'appeler Rocky Rock?
Ça, on a jamais, fait. Je sais pas si je mérite le surnom de Rocky non plus quand même.
Rocky Rock. Non, mais je sais pas, ça vient de me venir comme ça. Ratel Rock, tu nous avais fait la joie et l'honneur de venir pour une entrevue il y a quelques mois maintenant.
Ouais,
et notamment, durant cette entrevue, tu avais évoqué un rapport quelque peu... amouraine avec pas du tout d'amour envers certains réalisateurs connus notamment pour avoir œuvré sur certaines grandes sagas cinématographiques et notamment la saga Star Trek. Nous allons donc parler de J.J. Abrams ce soir. Ça va être un gros
quelle
dossier
joie.
Je pense.
Oh bah moi, ça va vite hein, après hein, ce que j'ai à dire.
Ce que j'aime bien avec nous, avec le Star Trek pour les nuls, c'est qu'on n'a pas de... On n'a pas de ligne directive, c'est-à-dire que l'équipe régulière, là, nous, on est 5-6, il y en a qui adorent.
Vous écoutez, apparemment.
Il y en a qui...
Ouais. Je vous vois.
Attends, je reçois des messages. Ah ben non, ben voilà, c'est des confirmations, je ne peux pas venir. Oui, une 20 minutes après le démarrage de l'enregistrement.
Oh, de raclure
de... Voilà. Et donc, il y a certaines personnes parmi nous qui adorent et d'autres qui détestent. On avait fait, pendant le confinement, une émission de 5h30 qui s'appelle « Pourquoi la Kelvin Timeline, c'est génial, la KTL, c'est génial ?» avec uniquement du positif sur ces trois films, ces trois œuvres et ce qu'elles ont apporté dans la saga Star Trek. Et aujourd'hui, on va peut-être plutôt faire un genre de le procès J.J. Abrams.
Je me dis ça va, c'est pas non plus. Je tiens à préciser, je vais peut-être cracher dessus, mais ça reste des bons films. C'est pas au stade où vraiment je trouve que c'est mauvais. C'est juste.
C'est vrai.
Il y a beaucoup de choses qui me déplaisent dedans. Je ne vais pas aller dire à tout le monde que c'est les pires films de l'univers non plus.
Ok. Mais par contre, tu vois, je trouve que c'est bien de proposer ça on est en quelle année ? 2024. Parce qu'on est... le premier film de l'arrivée de J.J. Abrams, c'est 2009. On est 15 ans plus tard. C'est bon, les choses... J'ai nous fait une grimace
c'est
incroyable.
Cool. C'est pas sympa.
Les choses ont eu le temps de maturer. On a pu passer à autre chose, hein, parce que J.J. Abrams, non seulement il a dégommé la... Enfin, il a fait des films, mais il a inséré aussi...
J.J. Abrams, il se voit encore dans Star Trek, hein.
Voilà, il a inséré ses potes dans les séries télé, mais maintenant, tu vois, la haine qu'on a pu vouer, que certains d'entre nous et certaines d'entre nous ont pu vouer à J.J. Abrams, elle s'est un peu détournée, elle s'est dirigée plus peut-être vers Monsieur Kurtzman, qui bon, pareil, qui est polarisant, on va dire. mais avant de parler des films de J.J. Abrams et de pourquoi on n'aime pas trop ce qu'il a fait sur Star Trek, j'aimerais bien qu'on revienne juste
caméras,
déjà
là,
sur... pour, comment
je suis contente qu'il n'y ait pas de caméra. Là.
Non, c'est ça. Oui, on a dit non, pas de caméra. Ça va beaucoup souffler, on va avoir les joues rouges. Je voulais qu'on revienne chacun, toi puis moi, sur notre rapport à J.J. Abrams, comment on l'a découvert et voilà, de l'origine story, est-ce que tu te souviens
Est-ce que je me souviens le premier truc que j'ai vu de Jérôme? Waouh. Je crois que les premiers trucs que j'ai vus de lui, en fait, j'avais pas encore conscience de ce qu'était un réalisateur. Hein. J'étais enfant. Parce que Star Trek, le premier, 2009, moi, j'avais 15 piges. C'était pas encore le moment où je m'intéresse au cinéma. Je commençais tout juste. Donc, je pense que j'ai vu des trucs de lui sans m'en rendre compte. Mais par contre, le Star Trek de 2009... Je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, l'avoir relativement bien aimé, juste... parce que c'était Star Trek, et parce que tu revoyais Kirk et Spock et tout ça. Je venais de me mater toutes les séries qui existaient, dans l'ordre, donc j'avais une petite nostalgie des trois personnages de tête, et la musique me fait toujours plaisir dans ces films, genre quand tu commences à entendre les petites notes du générique original, c'est toujours un peu cool, mais après, enfin ouais, non, la première fois que je l'ai vu, ça m'avait pas choqué.
Ouais.
C'était pas merveilleux, mais je le détestais pas. Et puis, tu es apparu il y a quelques mois et tu m'as dit « Hey, on fait un truc sur Star Trek !» Et je les ai re-regardés. Et comment dire, 15 ans plus tard, avec plus de recul sur ce qu'est le cinéma et ce que j'aime dans le cinéma, enfin dans la fiction en général,
Ça pique.
Ça pique un peu.
Ouais. Mais... Ah, donc c'est vraiment juste ce qu'il a fait sur Star Trek.
C'est, comment dire, en fait, justement, tu parlais de la timeline, Calvin, tout ça. Je trouve que l'idée est super de faire un reboot où t'es littéralement dans un univers parallèle. Voilà, t'as le Spock d'origine qui existe toujours, machin, tout ça. Super cool. En plus, ça va très bien avec Star Trek, donc parfait. Le truc, c'est que, on en avait parlé la dernière fois. Moi, ce qui m'énerve, c'est les personnages dedans. Les personnages, c'est pas du tout les personnages qu'on connaît.
Ouais.
Absolument pas, et pourtant, en fait, ils veulent tu sais, genre, le beurre et le numéro de la laitière, comme on dit chez moi, et du coup, ils te font des personnages qui, concrètement, sont complètement différents dans l'histoire, genre, t'as un Kirk coureur de jupons, en vrai, il est pas coureur de jupons, il faut arrêter ce cliché sur Kirk, ça n'est pas vrai, il est amoureux de son vaisseau, c'est très gênant dans la série originale, mais il est pas coureur de jupons, pas du tout.
Spock est pas mal coureur de jupons.
Spock est plus coureur de jupons. Dans la série originale, il a un petit truc avec Uhura, il a un petit truc avec Chapelle, il a un petit truc avec. Je me souviens plus.
Toutes les meufs de toutes les planètes, de manière générale.
Parce qu'il est un peu exotique, tout ça. C'est son propre problème en soi dans les années 60. Mais bref. Mais tu vois, le Spock du film, c'est pareil. Zachary Quinto, je l'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais il parle comme s'il avait. Je sais pas quoi dans le cul, et comme un robot, et le Spock de la série originale, enfin je pense que tous ceux qui ont vu la série savent que le truc de Spock, c'est le sourcil levé, c'est sa putain d'attitude s'assit là, il fait des blagues constamment, mais personne ne les comprend parce que voilà, ça leur passe au-dessus. Il est rigolo Spock dans la série originale. Là il est...
Il passe à côté.
Non, c'est un robot.
Mais bref. Alors, attends, parce que là, on va quand même vachement vite en besogne. Moi, je voulais vraiment le moment où toi, Ratel, tu as vu marquer J.J. Abrams et tu as vu ce réalisateur ou ce scénariste ou ce producteur, parce que il avait fait. Voilà, c'est tu te rappelles pas, c'est plus.
Le seul truc que je me rappelle, c'est que J.J. Abrams, putain, il aime bien les lens flares, c'est rigolo.
D'accord.
Voilà, c'était ma réflexion de moi de 15 ans qui ne savait pas.
Non, parce que le truc, c'est que moi, je l'ai découvert sans le connaître dans Lost, hein, la série, quand elle passait à la télé sur TF1, ce fameux été. Et ça a été quelque chose ça a été un peu ma rentrée. Je pense que très étrangement, si Lost n'avait pas été là, je ne serais pas là en train de parler derrière ce micro actuellement, parce que ça a été la porte ouverte. Ah, j'avais pas vu, il y avait le chien derrière toi.
Oui, il y a le chien derrière.
Je croyais que c'était un coussin.
Non,
c'est assez merveilleux.
C'est le chien noir sur canapé noir.
Ouais, voilà. D'un coup, ça bouge. Ouais. Est-ce une araignée? Est-ce un monstre? Non, c'est un chien, ça va, tout va bien.
C'est un monstre.
Et du coup, voilà. Mais à ce moment-là, Lost, je regardais Lost. Hein, je ne regardais pas la création de J.J. Abrams. C'est plus tard... beaucoup plus tard, mais alors à quel moment? Je crois que c'est lorsque est arrivé Super 8, je crois, et donc Super 8. Non, parce que attends, Je ne me souviens plus. Super 8, Super 8 est sorti. Après Star Trek, oui, c'est ça. Après avoir fait Star Trek que j'étais allé voir au cinéma, que j'avais pas mal, beaucoup aimé même à l'époque, j'ai vu Super 8 et en voyant Super 8, on m'avait dit c'est le même réalisateur que le Star Trek et c'est le créateur de cette série Lost et de Alias, etc. Alors Alias, moi, je n'ai pas vu. On en a parlé en off, toi non plus. Bon, c'est bon. Mais ce sont des séries quand même qui ont une portée... une portée historique, une réputation dans le monde de la télé. Et de là, c'est surtout Super 8, en fait, parce que ben, Super 8, il arrive en 2011, et en 2011, on était déjà dans cette époque que l'on commence à moins vivre actuellement, mais où c'était les films, les blockbusters étaient des films de franchise, énormément déjà. Et pour le coup, Super 8, c'est pas un film de franchise, c'est un film ben, de J.J. Abrams, qu'il a produit, écrit et réalisé. Et... je me souviens m'être dit, il y avait pas mal de gens à cette époque qui comparaient ça à du Goonies avec des adolescents bien écrits, des pré-ados bien écrits, machin. Et moi, j'avais vu, qui aime beaucoup les Goonies, j'avais vu Super 8 et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est nul.
J'ai cru que tu me faisais la montée pour me dire, mais c'était génial, j'ai adoré.
Ah non, je n'aime pas du tout Super 8. Ça a commencé là, et de là, j'ai vu marquer J.J. Abrams, et de là, j'ai réalisé ce qui clochait à chaque fois. Star Trek, c'est plus tard quand même, parce que à ce moment-là, je connaissais pas tant que ça, j'avais juste vu celui-là de film, et c'est plus tard que j'ai vu tout le reste. Ouais, mais bon, c'est assez récent, hein, y a pas de problème. Et voilà. Et donc, c'est un mec que j'ai appris à respecter, parce que c'est fichtre, mais tous les films qu'il a réalisés, il les a aussi produits et scénarisés. Donc c'est un mec hyper investi dans ce qu'il fait.
C'est très dommage étrange. Que ce qu'il fasse, ce soit aussi...
Exactement, c'est ça qui est catastrophique. Il est parti dans son trip fan nostalgique des années 80, fils spirituel mais complètement pété de la tête de Spielberg. Fils raté, non, comment on appelle ça, dégénéré, voilà, enfant dégénéré de Spielberg. Et il est parti dans un délire de je me prends toutes les franchises et je me les refais à la sauce. Et donc, il a tapé dans du Mission Impossible, il a tapé dans Star Trek, et puis il a atteint son but ultime, Star Wars. Parce que je pense que tu es un peu d'accord. Voilà, tout le monde est d'accord.
Sa carrière a été pour
les deux viser. Star Trek étaient... des brouillons de ces futurs Star Wars. Et ça fait partie des rares fois où je préfère le brouillon quand même.
Oui, par contre, c'est ce que j'allais dire. Finalement, on a un prix moins cher dans le fandom de Star Trek que dans le fandom de Star Wars.
C'est un peu paradoxal, ouais. C'est très étrange à dire. Tu as revu Mission Impossible 3 ?
Non, mais après, révélation ultime, je suis pas très fan des Mission Impossible.
Non, c'est pas un problème. C'est juste que, on avait, quand il arrive de Mission Impossible, on a eu ce premier film fait par Scarface.
Ah, le premier, je sais plus. Alors là.
Ça y est, je vais passer pour un idiot. Bref.
Il me semble surtout que le deuxième, c'était...
John Woo.
C'était celui de John Woo, ouais.
Et le premier... Ah, zut, mince. Brian De Palma.
Oui, d'accord.
Brian De Palma, avec sa marque, sa patte très, très forte, très, très ancrée. John Woo qui débarque.
Les deux premiers, ils ont fait un truc...
Voilà, des films de réalisateurs bien, bien visuels, bien percutants. Et J.J. Abrams arrive et fait un film extrêmement hollywoodien, extrêmement neutre, fade, qui n'a pas de... qui n'a rien, quoi, qui est lisse, mais qui déjà te met de la lumière dans les yeux. Hein.
Il faut cacher les effets spéciaux moches.
C'est quelque chose, quoi. Et voilà. Néanmoins, après cela, il va produire le Cloverfield de Matt Reeves. Mm. Et ça, pour le coup, tu vois, quand ils touchent pas au scénar ni à la réal, ils donnent juste de l'argent et des indications.
Bah, de toute façon, t'as beaucoup de réals hollywoodiens qui sont beaucoup mis en producteur. En fait.
Voilà, c'est un peu.
Bah, genre George Lucas, je suis désolé, il est mis en producteur quand. Comme réalisateur. voilà. Si on veut parler Star Wars.
Si on veut de l'académisme, c'est pas.
Oui.
Voilà. Et puis c'est après qu'il arrive à Star Trek. Et donc Star Trek, parce qu'on va pas faire l'intégrale de sa filmographie, si ce n'est que. Voilà, tous les films qu'il a réalisés. Je n'en aime aucun. Il y a toujours les mêmes tropes, les mêmes Mystery Box, les mêmes objets qu'on doit retrouver, les mêmes personnages avec les mêmes relations toujours conflictuelles.
Mais oui, mais de toute façon, je ne sais pas si tu avais vu ces masterclass, même si moi j'ai du mal à considérer que c'est des masterclass. Mais ouais.
Il fait des masterclass.
Bien sûr qu'il a fait des masterclass. Forcément. D'accord. Et son truc principal, effectivement, c'est la Mystery Box. Il t'explique la Mystery Box. Et toi qui as vu Lost, justement, voilà. À quel point il a entubé le scénariste de Lost avec cette idée de Mystery Box. Parce que J.J. Abrams, il s'en fout, il te met la Mystery Box, il n'a pas réfléchi à ce qu'il y avait dedans.
Non.
Et il va demander à son scénariste « Oui, bon, non, mais tu te démerdes, dans 5 saisons, il faut qu'on apprenne qu'il y a un truc extraordinaire. Voilà, allez, bisous, moi je pars faire Mission Impossible. Démerde-toi. » pour ça, genre, pour moi, l'histoire de Lost, là, la production de Lost, pour moi, ça montre bien quel genre de mec c'est. Hein. Il te lance un truc, soi-disant, il est passionné, machin, ça dure une saison, et on lui propose un truc plus gros, il se casse. Hein.
Il se barre, ouais.
Il fait ça, Star Trek, on lui propose Star Wars, il se casse. Ouais.
D'ailleurs, il ne réalisera même pas le troisième film Star Trek, hein, parce qu'il le confie à Justin Lee. Là, pour le coup, il ne s'occupe même pas du scénar, rien du tout. Il fait juste un petit peu de prod de loin.
Ouais.
Et voilà, mais on aura l'occasion de reparler. Donc, Star Trek 2009. Est-ce qu'on tire sur l'ambulance, hein, déjà? Est-ce qu'on parle
c'est le meilleur des trois pour moi. Voilà.
C'est vrai, le meilleur.
Je sais que toi, c'est le 3, tu m'avais dit.
Oui. C'est bien. Alors, bon, si on doit faire un top, c'est 3, 1 et 2. Quoi.
Bon, ben moi, c'est 1. Maintenant, 3. Je t'avais dit c'était 1, 2, 3, c'était dans l'ordre. Maintenant que j'ai revu le 3, c'est 1, 3, 2.
1, 3, 2. Et si on doit faire un top tier list en 5
En
5 positions.
Non, attends.
Je vois qu'il y a un guest qui va se rejoindre. Allô? Ah, c'est Matou. Bonsoir, Matou.
Oui, bonsoir.
Ça va? Il est de mauvaise humeur parce qu'il sait de quoi on va parler. Matou, bienvenue.
C'est creepy ta caméra. Je sais pas où t'es, mais.
Il enregistre sur son téléphone. Voilà.
C'est bien, il faut que l'enlever.
Non, il n'y a pas d'enregistrement visuel, Matou, ne t'inquiète pas. Matou, écoute, on était en train de parler de notre non-amour de J.J. Abrams, hein, puisque l'émission s'appelle le procès de J.J. Abrams. Et donc, on abordait juste à l'instant le premier film, le film de 2009. Et je demandais, est-ce qu'on parle des trucs vraiment très marqués, hein, l'aspect visuel de la saga, déjà, ce qu'il a apporté. Est-ce que c'est si catastrophique que ça, le fait de se manger des lensflares dans la gueule tout le long du film, d'avoir à ce point lissé un univers qui était lisse, hein, de base, le premier film Star Trek,
Motion Picture. C'était 90 minutes de faits spéciaux. Ouais.
Voilà, mais même visuellement, c'était blanc, rond, voilà. Mais vivant, là, on est dans un aspect peut-être chirurgical.
Vas-y.
Tu veux, dans Star Trek The Motion Picture, tu as un travail sur la lumière, tu as un travail avec l'image, avec le style de caméra qu'ils ont utilisé. Dans Star Trek 2009, la question que j'ai, c'est pourquoi les lens flares? Non, je veux dire, lens flare, on peut l'utiliser pour dire quelque chose avec l'image. C'est juste mettre du lens flare parce que tu vois, c'est, je sais pas, c'est comme si on mettait de la saturation sur mon micro pour donner un genre.
Ouais.
Je veux dire, je ne comprends pas. Tu as XP par exemple qui est très très sensible, tu vois, la mise en scène, à des trucs...
XP78, un de nos auditeurs et amis.
D'accord.
Un collègue de podcast.
Et puis, il comprend pas, c'est-à-dire pour lui, mais généralement, tu sais, on évite les lens flares. On fait pas, regardez, j'en mets, ça fait joli. Non, c'est pas joli. Ouais, mais si, je trouve ça joli, moi, alors je vous en mets. Merci.
Pour moi, c'est un peu comme la coriandre, tu vois. Je t'aime, je t'aime pas. Si tu détestes, tu ne vois que ça dans le film. Si tu t'aimes bien, bon, écoute, c'est rigolo, hein, il a mis des couleurs partout. Je pense que c'est vraiment un style vide, ça veut rien dire, absolument rien dire. C'est voilà. Un choix de direction artistique parmi tant d'autres qui se remarque beaucoup.
Et le reste, on oublie les lens flares.
Oui.
Tout le reste.
Ça, c'est dur. Attends.
C'est quand même un univers visuel assez marquant. On a ce policier, enfin cette espèce de robot policier en moto volante. On a la moto de Kirk sans roue, la passerelle du vaisseau qui est. On est
dans un Apple Store.
Ouais, voilà, dans un truc comme ça, dans une Apple, salle chirurgicale.
Ça ne me gêne pas qu'il soit aussi lumineux. En soi,
non, ça c'est même plutôt cool, je trouve.
Voilà, mais je veux dire, la direction artistique, mais c'est pareil dans tous les trucs de J.J. Abrams. Je le dis à chaque fois, mais J.J. Abrams, tu prends le livre des concept art pour l'épisode 7. Tu regardes avant que J.J. Abrams arrive, et tu regardes après qu'il arrive, de suite tu vois. Tu vois comment avant il y avait une foultitude, ça partait un peu dans toutes directions, il y avait des idées. Et après, tu as l'appauvrissement. Ben, J.J. Abrams, excuse-moi, cette direction.
Un recadrement, un resserrement.
Non, mais c'est pas ça, c'est que ça devient.
Non, un appauvrissement. Bon, d'accord.
Voilà. Je veux dire, Star Trek 2009, je veux dire, l'ensemble des. Il y a quelques rares petites choses qui ont, au niveau de la. Comment dire. Du design. Et de la direction artistique, et c'est pareil dans la mise en image, il n'y a pas grand-chose. Je prends un exemple tout bête. Les uniformes ou manteaux ont changé 3 fois dans les 3 films.
Et je préfère celui du 3e, où il n'était pas là. Donc, comme ça...
Ouais. Je prends lequel t'as le plus marqué
Visuellement, le 3, hein, clairement.
Voilà. Le 3, je ne serais pas prêt à te dire pourquoi exactement, mais il y a quelque chose dans le 3.
Mais déjà, le 3, les costumes d'Alien, 1000 fois mieux. Et c'est du truc en dur, c'est pas des CGI. Les costumes physiques pour les personnages humains, 1000 fois mieux, parce qu'ils respectent plus la souris originale. T'as du bleu, t'as du rouge, t'as du jaune pour tout le monde. Donc t'as des plans larges, où t'as... en plus c'est tous les membres de l'Enterprise, donc t'as des plans larges avec vraiment une foule Starfleet. Putain, c'est y a que dans Star Trek que tu peux pas avoir ce genre de couleur. Hein. C'est là.
pour répondre à ta question, Rémi, tu vois, on avait l'habitude de voir des bases spatiales depuis Next Gen et même avant Mantos, tu sais, c'était la maquette, etc. Mm-hmm. Dans le 3, on a une autre base spatiale qu'on avait jamais vue dans la saga, un peu folle.
Tu sais, ouais, Yorktown, ouais.
Ouais. Tu vois, c'est, je ne voudrais pas te dire si c'est bien ou mal, tu vois. Elle est avec ce truc de verre autour, etc. C'est à la fois symbolique, c'est à la fois novateur. Est-ce que c'est véritablement crédible? On est un peu... Mais au moins, tu vois, ça te marque.
Si, il me semble que c'est un vrai concept de truc faisable scientifique. je n'ai pas du tout le bon mot, c'est pas grave, on s'en fout. En gros, c'est un concept qui existe avant Star Trek, c'est pas eux qui l'ont inventé.
Mais je veux dire,
ce serait faisable en théorie.
Dans le 3, on le met en image. Bon.
Ah non, mais le 3, je trouve.
Le Nerada, là.
Le Nerada.
Le vaisseau,
le vaisseau du méchant dans le premier.
Dans le premier, ok.
Ah,
celui-là, je l'aime bien. Et il est débile. Le design est débile. Hein. Ça n'a aucun sens.
C'est surtout, c'est rempli de vide.
Oui. Mais non, mais c'est pour ça que je te dis, ça n'a aucun sens. Ouais. Mais tu le vois dans le plan large, le premier plan large. Ok, c'est les méchants. Tu sais quoi? Ça marche. Je prends.
Le seul truc, c'est que tu vois, par exemple, c'est tellement, comme dit, débile, que c'est quand même un vaisseau avec aucun garde-fou.
Oui, bah après, c'est un vaisseau de forage. C'était pas fait trop dans l'espace. Ils essaient d'expliquer pourquoi.
C'est-à-dire, moi, j'étais là toujours dans ce vaisseau. Ah ouais, il n'y a pas de garde-fou, là. Tu glisses, bam, t'es mort.
Mais ils sont athlétiques, c'est des...
Le méchant de Marcus dans le 2.
Ouais, non, mais alors ça, non. Ça, le 2, on a fait une tier list, là. C'est celui qu'on n'aime pas.
Ah. Donc, mais le méchant dans le 2, il est noir. Il est gros.
Quoi?
Ben oui, dans le...
Non, le tout premier, c'est pas le méchant.
Si?
C'est genre un mec qui voilà, qui veut sauver sa fille. Tu vas pas me dire que c'est l'antagoniste du film.
Le vaisseau de Marcus.
Ah, pardon!
Le vaisseau est gros et noir.
Donc, ouais, tu parlais du méchant. Je sais, mais c'est un mec blanc, vieux, tout maigre. Qu'est-ce que...
Non, je parle du vaisseau.
On est passé à côté de la truc. Oui, oui, ben c'est l'Enterprise en gros, noir et vide.
Voilà.
Oui, oui, il faut courir pendant des kilomètres pour traverser un hangar, c'est marrant.
Si c'est censé être un vaisseau de guerre dans l'espace, qu'il soit tout noir.
Grand, noir et vide.
Oui, bah... un vaisseau de forage.
Voilà. Excuse-moi, c'est pour ça que je dis la direction artistique, elle est quand même aux frais.
Non, mais même sur l'Enterprise elle-même, je trouve l'Enterprise de DJ Abrams super moche. Les couloirs sont dégueulasses. C'est tout blanc, il y a de la lumière partout. Alors, c'est cool, de temps en temps, il te fait des jeux là où il le met à l'envers, machin, tout ça. Voilà, rigolo.
Mais c'est quand même le mec. Je termine sur l'exercice artistique, qui s'est dit tiens, je visite une usine de bière, ça ferait un super réacteur pour l'Enterprise.
Ah, j'avais pas vu. Ah, c'est. J'avais pas eu l'image. Tu vas souvent dans des usines de bière ?
Non, mais c'est dit, hein. C'est dans les okay. Comment dire, dans les bonus.
Ah, j'avoue, j'ai pas regardé le
usine de bière.
On trouve son inspiration.
Un fût, en fait, dans le...
C'est vrai, il tabasse un fût. En fait, c'est un film sur l'alcoolisme de Kirk. C'est pas du tout.
Donc voilà, pour donner, si tu veux, dans le procès, la direction artistique est assez plan-plan, pauvre, vide de sens, assez clinquante et tape à l'œil. Avec un certain nombre d'idées où tu as envie de te dire non, il y a une différence entre on va dire briser des codes et faire n'importe quoi.
Ouais. Bon, ça c'était vraiment pour l'aspect visuel. Mmh. Bah, du coup, on a aussi fait l'aspect visuel de Into Darkness, je pense. Parce que c'est dans la continuité même. Enfin, il y a pas énormément. On voit que c'est un. Bon, après, ouais. on reviendra sur Into
Vas-y,
Darkness quand on arrivera à Into Darkness. du coup, bon, ben voilà, visuellement, c'est pas bien. Le 2009, sur l'aspect scénario, cette course en avant, moi, ça me déplaît pas tant que ça.
Le quoi, pardon, t'as parlé de quoi, en fait?
La course en avant, donc la construction de l'histoire.
La feuille de PQ sur laquelle il a marqué son synopsis.
Alors,
on va avoir des problèmes.
Tu vois, l'élévateur pitch, les trucs où t'es censé pouvoir pitcher ton truc en 15 secondes.
Non, il y avait la grève des scénaristes, donc...
Oui, donc c'est lui qui a fait n'importe quoi.
Ouais. Parce que quand même, quand tu te fais larguer sur une planète de merde, où tu manques de te faire tuer par un certain nombre de bestioles, tu vas dans une grotte et là, bah tu trouves Spock. Voilà.
Non, alors là-dessus, ouais. J.J. Abrams fait ce qu'il fait depuis le début dans Lost, il le faisait déjà.
Oui,
Il y a une notion pour lui, et ça semble très important parce qu'on le retrouve à nouveau dans Star Wars, une notion de destinée. De destin. Les gens sont destinés à accomplir ce qu'ils doivent accomplir. Donc,
c'est dommage parce que c'est le truc que je déteste le plus dans les scénarios.
On nous le répète à plusieurs reprises dans le film de 2009 et dans Into Darkness, les personnages étaient destinés à se retrouver, pas forcément de cette manière, mais ils étaient destinés à se retrouver. Donc, une fois qu'il assume ce côté-là, bon ben ça me surprend plus tant que ça que bon ben Kirk au milieu d'un désert de glace trouve Spock.
L'idée de destinée, tu l'avais déjà par le fait que même s'ils ont pas la même vie, ils se retrouvent quand même sur le même vaisseau tous. Donc est-ce qu'il y avait besoin de mettre la magie du chaman qui est dans la cave et qui oh là là il apparaît au bon moment? Je suis pas convaincu. Okay. Qu'il soit sur la même planète, c'est pas un souci. C'est logique, il faut qu'il voit Vulcain, machin, tout ça, on a l'explication. Mais la même grotte,
C'était la seule grotte de la planète, peut-être.
C'est la seule grotte
de la planète. Et Spock avait eu le temps de faire le tour de la planète trois fois. Hein. Peut-être.
Donc, vite. Dans les choses. Déjà, poser l'histoire de prédestination dans une série Star Trek, sachant que Star Trek a toujours été plutôt un démystifieur de tout ce qui est du divin. Hein, Tos passe son temps à avoir des gens qui se réclament être des dieux pour en fait leur faire montrer qu'ils sont que des êtres évolués mais qui ont les mêmes défauts que les humains. La prédestination, tu sais, c'est pas rien. C'est-à-dire que l'ensemble de ton destin est écrit. Par qui ? Comment ?
Par Picard.
Hein ?
Ah, ce serait beau. Par Q, voilà.
C'est ce que disaient les Vikings. Il y a tout mon destin est déjà tracé par les dieux, j'ai qu'à le suivre. Là, si tu mets dans Star Trek, il va falloir vraiment que tu aies tu vois, quelque chose qui est de l'ordre du probabiliste. Tu vois, c'est ce que fait la série Foundation, avec la psychohistoire, en montrant des lignes de fracture, des probabilités, des choses qui amènent des convergences et tout. Là, tu as, on va dire, un cadre pour aller vers une prédestination. Là, non, c'est juste, il rentre dans une grotte. Ah putain, t'es la Spock. C'est ça, c'est super.
Non, d'abord, c'est. Ah mon Dieu, qui êtes-vous
pour les nuls.
Ok. Et, tiens, ça m'amène à me poser une question, là, ce que tu viens de dire, parce que tu inscris vraiment ça dans la continuité des œuvres Star Trek déjà faites. Est-ce que. J'ai un petit peu vu sur Internet, hein, sur les réseaux sociaux. Et dans d'autres podcasts, dans des vidéos, tout ça, les gens qui ne sont pas fans de Star Trek à la base, ils s'en foutent un peu de ces films et ils les détestent pas autant que nous. Mmh. Est-ce que
bien,
nous,
oui, bien sûr.
Le fait de... Ben, quelque part, le film, alors d'un point de vue méta, d'un point de vue production, distribution, pub, etc., ils ont vendu le film comme un reboot, etc., mais... Le film en lui-même te dit c'est un univers parallèle. Donc pourquoi est-ce qu'on est autant énervé sur ce genre de truc ? Pourquoi est-ce qu'il peut pas mettre du destin dans son film ? Pourquoi ça
Parce
nous énerve ?
Parce que Star Trek, c'est pas c'est que l'univers.
C'est pas qu'il en mette.
Ouais.
C'est de le faire pour les nuls, encore une fois. C'est d'amener les codes de la fantasy, tu vois, du monomythe, de tout ce qu'on a déjà vu et revu depuis pas mal de temps, dans un univers qui, à la base, avait autre chose, permettait de dire autre chose. Donc, c'est ça.
C'est le fait d'avoir transformé Star Trek en saga de films et de séries comme les autres.
Non, mais je veux dire, le prème, il y a moi, la Kelvin Timeline, je ne suis pas contre. Justement, j'aime beaucoup le fait que c'est une truc alternative. Et quand on avait fait sur les bandes dessinées, je t'avais dit que les bandes dessinées vont plus loin, justement, dans les variations. Elles te permettent de toucher des choses, tu vois, mais en même temps, c'est ce que fait à peu près le 3, moi. Moi, je trouve que le 3, avec un Kirk qui se dit que peut-être il n'est pas fait pour être capitaine, parce que tout ce qu'il a voulu, c'est imiter son père, tu vois, là, tu as une variation. Là, je ne suis pas en train de te dire que c'est nul. C'est en effet, c'est, tu te dis, les mecs, ils ont réfléchi à partir du canevas de base pour te proposer une histoire qui participe à plein du fait qu'on est dans une réalité alternative. J'ai même défendu là-dessus en disant « Oui, mais Kirk Shatner aurait jamais été comme ça, mais ce Kirk-là a une autre enfance, un autre vécu, donc il amène à une conclusion différente. » Là, excuse-moi, je veux dire, qu'est-ce qu'il nous reste de 2009 ? Là, on est 15 ans après, qu'est-ce qu'il nous en reste ? Les effets spéciaux ont continué à tenir la route.
Les effets spéciaux ont tenu la route. J'ai revu courant de l'année là, le film et il tient bien visuellement.
Voilà. Et ensuite, le méchant est impactant ?
Non, malheureusement. C'est dommage, moi j'aime bien Bana en plus.
Ouais, ben, bien sûr, j'aime bien Bana. On aime bien. Regarde ce qu'ils ont fait avec Dominic Cumberbatch. Le même
Rattle, lâche ce couteau.
Non, tout va bien. Tu prends un des seuls personnages de fiction d'un truc énorme, d'une franchise énorme qui est canoniquement indien, qui s'appelle Kanyunyan Singh, et tu castes quelqu'un de britannique qui a notoirement la Grande-Bretagne et l'Inde ont une histoire très très amicale entre les deux. Ça m'a tué de voir ce casting, vraiment.
Ouais, enfin, attends, ils sont gentils les Indiens, mais...
Pardon, quoi ?
On est anglais, hein. Hein, qui a pas eu les Anglais.
Elle pleurait quand elle est morte, la reine.
Pour les diviser. Hein,
voilà.
Hein, ils en sauraient où.
Ils ne feraient pas les plus grands films de cinéma actuellement. Bon, donc merci.
Oui. Alors, du coup, j'emmerde Abrams pour ça.
Mais le pire, c'est que tu sais, dans les comics, ils ont trouvé une explication.
Mais je veux pas d'explication.
Oui, c'est George Harrison.
Je m'en fous des explications.
Non, mais l'explication peut se tenir. C'est-à-dire, encore une fois, si tu fais ça, on aurait pu prendre deux acteurs. C'est ce qui était
il s'appelle Khan.
On lui a changé son esprit, son corps, etc. On aurait pu même, tu sais, passer de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, tu vois. Il y avait tellement de choses à faire. C'est juste... moi, je veux un acteur britannique, je l'aime bien.
Que t'aies une explication ou pas, ça reste du whitewashing, quoi. Tu peux me sortir les meilleures explications que tu veux.
C'est chaud, hein.
Ouais. Le fait que t'aies casté quelqu'un de très très blanc pour jouer un personnage indien, ouais. Déjà le casting original, bon, t'es pas indien, hein.
Je vais défendre encore une fois, on est dans Star Trek. Alors le problème, c'est que c'est censé être un indien des années 90 de Star Trek, parce que dans le monde de Star Trek, tu peux avoir un nom français et boire du thé
et être britannique surtout. En fait, Star Trek, c'est juste qu'ils aiment les Britanniques.
Non, mais je t'apprends là qu'on peut estimer dans un futur beaucoup.
Je suis sud-africain. Vous avez un accent anglais.
Non, mais quand même, il y a plus de différence entre un français et un anglais qu'entre un indien et un anglais. Enfin, là, je suis désolé.
Oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on peut imaginer dans le futur de Star Trek que tu peux avoir un patronyme qui n'est pas du tout en accord avec ton identité. Parce
mais
que
en fait, l'explication, mélange. Encore une fois, je m'en fous. Ce n'est pas l'explication. D'un point de vue complètement méta que ça m'énerve.
Tout à fait. Oui, oui.
C'est le casting.
C'est-à-dire qu'in-universe, dans Star Trek, tu as des ruptures comme ça, dans l'histoire de la saga, qui peuvent s'expliquer par le mélange.
Ni, m'en fiche. Fois, c'est pas vrai, c'est vraiment pas. Ça ne m'aide absolument pas à accepter le casting. Vraiment pas.
Encore une fois, ça dépend ce que le casting amène.
On peut tourner en boucle. Qu'est-ce qu'il amène, Benedict Cumberbatch? Il sortait de Sherlock, c'était juste le pic de sa carrière. Voilà, ils l'ont foutu dans Star Trek parce qu'il était. Il faisait sortir les filles au cinéma, c'est tout. Hein.
Oui, tu es dans l'externaliste. J'ai pas fini. Je suis dans l'internaliste. Ce genre de choses peut porter un sens. Mais en internaliste encore, Khan, il vient d'une société humaine qui est comparable à la nôtre. Donc, ce n'est absolument pas une explication. Ensuite, le whitewashing, je suis totalement d'accord avec toi. Ce que tu viens de dire, c'est totalement vrai. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a rien de pire que quand tu as une décision où tu sens l'externalisme en disant « Regardez, lui, il est bien parce qu'il vient de Sherlock. Ouais, mais il n'est pas censé être indien. » Ta gueule, toi. Tu vois ? C'est-à-dire, quand tu sens ça, c'est-à-dire que tu as tout raté. C'est bon, tu as tout perdu sur tous les tableaux. Il n'y a pas photo. Donc,
Non, ils ont même fait pire que ça. Ils ont fait que c'était un twist que ce soit Khan.
Ah oui, non mais.
Dans whitewasher le personnage.
C'est la meilleure promo qu'il ait jamais eue.
Oui, ouais. Ça, on y est revenu 15 000 fois dessus.
Au fait, c'est Khan. Non, il s'appelle George Harrison. Non, mais c'est Khan. Non, il s'appelle George Harrison. Non, mais c'est Khan.
En plus, franchement, non, mais c'est débile même d'un point de vue. C'est marketing parce que bon, les films, ils sont faits pour les fans de Star Trek. Hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens qui connaissent pas Star Trek, ils s'en foutent. Ils vont pas voir ça au cinéma. Et du coup, t'as des fans qui aiment le Khan Noonien Singh d'origine parce que putain, la colère de Khan, c'est genre le méchant absolu de la série originale alors qu'il a un seul épisode. Et tu le whitewash et après tu leur fais le twist. Donc en gros, tu leur dis, mais je viens de vous prendre pour des cons. Voilà, bisous. Ciao. Je me casse et je tue Kirk. Comme la colère de Khan aussi, tiens, vas-y, allez.
Non, je tue pas.
John Harrison, pas George Harrison. George Harrison, c'est un
George Beatles. George Harrison, c'est les Beatles.
Excusez-moi. Depuis tout à l'heure, je me dis, il y a un truc qui cloche. Et je crois qu'on fait l'erreur à chaque fois qu'on parle de Star Trek Into Darkness.
C'est déjà qu'ils ont choisi un bon nom.
Il faut l'appeler Benedict.
Il leur a appelé, Benny. Quelque chose comme John...
Smith.
John Smith.
Ouais.
Voilà.
C'est dommage, si seulement ils avaient eu un nom impactant d'antagoniste déjà tout près qui était là et qui était bien. Ah, c'est con, hein. C'est dommage.
Bon, donc oui, on déteste ces films, notamment parce qu'on est fan de trucs, mais je pense qu'il y a des personnes qui voient ces films et qui se disent c'est quand même pas bien du tout.
Encore une fois, bon, déjà, les gens peuvent. Le whitewashing, bon, il faut le connaître, etc. Nous, on le sent. Mais des gens qui viennent voir juste le film, Encore une fois, qu'est-ce qu'il en reste?
Ah oui, qui ne connaissent pas la saga originale. Oui.
Qu'est-ce qu'il en reste? Alors, on va te dire que c'est un film, comme on l'a lu, c'est J.J. Abrams arrive à mettre une critique des services de renseignement et sa vision de complexe militaro-industriel. Je ne connais pas, c'est ce que j'ai lu dans des critiques.
Oui, non, je sais, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que je me rends compte que c'est même moins profond en termes d'analyse possible du film que Iron Man 1. Et pourtant, c'est déjà pas très, très profond. C'est très surface, hein, Iron Man 1. Et il y a déjà plus de trucs que dans Star Trek Into Darkness. Oui.
Into Darkness, ouais, on a changé.
C'est triste.
C'est un de ses problèmes, hein, Gigi. Tu le dis souvent, Matou, il a ce côté où, pour lui, ah, zut, j'ai perdu les mots. Ce soir, c'est la soirée des mots qui me perdent. Tous les... Pas les complexes, mais les regroupements de personnes. Comment on appelle ça?
Les associations, les agences.
Ouais, voilà. Tous les gouvernements aussi sont corrompus et sont...
C'est le fameux complot pour les nuls. Encore une fois, c'est le mec qui est à la tête de tout, et en plus, c'est un gros con, méchant, qui fait des gros trucs pour faire la guerre, pas gentil, mais bon, il se fait tuer par Khan, pas gentil Khan.
Du coup, Spock, il va aller tabasser Khan, voilà. C'est pas gentil Khan.
Quand il y a une porte ouverte, il préfère passer par la fenêtre.
Oui, c'est vrai ça. Mais c'est plus pratique.
Non, mais je trouve, franchement, je trouve que cette scène, elle illustre parfaitement et totalement le style de film de J.J. Abrams. C'est la première fois que tu le vois, comme tout est en mouvement, comme il essaie de te mettre du dynamisme, des choses qui vont vite dans l'enchaînement des péripéties, dans la mise en scène, il y a un effet où, en gros, tu es dans le manège. Et là, tu vois juste, il est passé à travers une vitre. Et après, quand tu prends le temps de te poser un petit peu, de ralentir et de voir ce qu'il y a vraiment, là, tu vois que tout s'écroule.
Mais il n'y a que les intellos qui réfléchissent devant le film. Quelle idée aussi, là. Il faut poser son cerveau.
On fait du divertissement.
Mais oui.
Ah, d'accord. Si c'est pour faire du divertissement, vous oubliez Star Wars et vous oubliez Star Trek. D'accord. Parce que les mecs qui ont fait les deux, ils avaient l'idée de faire, on va vous divertir, mais on va vous raconter une histoire qui essaie de vous dire quelque chose qui n'est pas trop con. Je ne vais pas juste vous faire boum boum, ça bouge, regarde, pipiou, c'est joli.
Non, mais ça, de toute façon, je ne comprends toujours pas pourquoi J.J. Abrams s'est retrouvé avec Star Trek. Pour moi, ce n'est pas du tout un fan de Star Trek. Et il a emmerdé Star Trek jusqu'à aujourd'hui. On a les impacts de sa version de Star Trek encore aujourd'hui et ça m'énerve.
Mais n'oublie jamais que derrière tout choix de réalisateur, showrunner et tout, tu as des exécutifs d'un studio.
Ouais, mais ça, c'est un peu facile, tu vois.
C'est eux qui lui font le contrat. Et dans le contrat, il y a le cahier des charges. Hein.
Je le sais, t'inquiète pas. Mon métier normal, c'est de bosser dans le cinéma, sur les longs métrages. Donc, il y a un cahier des charges, mais c'est un gros mythe que les producteurs, ils te mettent le couteau sous la gorge et ils t'empêchent de faire tout ce que tu veux.
Gigi, tu prends ton million, je veux un film avec une séquence d'action tous les temps, je veux que tu cibles un nouveau public avec jeunes. Ok, je mets le monomythe. Ouais, vas-y, je m'en fous, mets ce que tu veux. Mais je veux ça. Voilà.
Un cahier des charges, si t'es passionné par ce que tu fais, t'arrives à le contourner. Hein. Donc moi, c'est aussi que J.J. Abrams, il a pas mis d'effort dans...
Non, mais J.J. Abrams donne le cahier des charges. Attends, il sait très bien comprendre ce que attendent les producteurs et les producteurs exécutifs lui-même de ses propres films. Mais il a une commande et il l'honore. La seule fois où il l'a pas honoré, c'est quand il a fait le premier épisode de Lost.
Et après, il a laissé, encore une fois, son scénariste se démerder avec.
Non, Lost, il va voir les mecs, il leur dit « Bon, ben voilà, on a fait une Bible. » Le truc, il n'est pas feuilletonnant. Les mecs, ils peuvent avoir un guest par épisode. Il a fait tout le contraire de ce qu'il a donné comme Bible au producteur. On lui a donné un budget de, quelques millions de dollars. Il a explosé le budget. Mais explosé complet. Heureusement, le premier épisode a été un énorme succès. Ça a coûté sa place justement à l'exécutif qui avait validé le projet. Voilà. Parce que quand l'avion se crache, il a fait venir une épave directement à Hawaï depuis le je ne sais plus quel cimetière des avions qu'il y a, dans un désert, tu as un cimetière d'avions, etc. Hop, il l'a fait venir pièce par pièce jusqu'à Hawaï. CGI? Non, on va claquer des millions de dollars pour faire ça.
Oui, mais après, il s'est barré.
Oui, après, il s'est barré.
Il a utilisé tout le budget, il a laissé le scénariste se démerder, et le showrunner se démerder.
Il s'est barré. Puis.
Donc, encore une fois, je trouve que J.J. Abrams, si...
Ah oui, voilà. Il s'en fout.
Et puis, Paramount qui veut relancer, lui, il se dit qu'il est relativement intéressé, et il n'a vu Star Trek que comme un marche-pied. Donc, on lui a dit, nous, on veut faire un truc jeune, toujours pareil. Tous les choix qu'il y a derrière sont forcément validés à un moment par ceux qui mettent le pognon sur la table.
Donc, mais il est quand même passé par Mission Impossible hein, avant.
Oui.
Mais les dégâts dans Mission Impossible sont bien moindres par rapport aux dégâts dans Star Trek.
Qui c'est qu'il a avec lui sur, tout le temps sur le plateau ?
Tom Cruise.
Voilà.
Que son meilleur pote n'a pas réussi à manager. Kurtzman n'a pas réussi à tenir Tom Cruise pour la momie.
Oui, mais c'est en plus...
Lui, J.J. Abrams, il a réussi. Tu vois. Donc il a ça de bien. Tu vois.
Tom Cruise est dans le creux à ce moment-là.
Ah. Hein ? Oui, c'est vrai qu'il était... Ouais.
Et non, mais surtout, après, je pense que l'impact de J.J. Abrams, c'est
plus... La preuve, il en est tellement que quand ils font celui qui relance la franchise avec Ghost Protocol, les producteurs ont imposé à Tom Cruise la présence de Jeremy Renner,
ouais.
Qui heureusement n'est pas venu avec sa déneigeuse,
quoi
qui était là pour en gros remplacer Tom Cruise, peut-être à terme, si jamais le film marchait pas tellement bien, etc. Et tout.
Donc, oui, d'accord, il n'est pas arrivé. Il est pas arrivé en jouant des coudes, en poussant tout le monde, en disant c'est moi qui est là. Il s'est plié au truc.
Enfin, il s'est plié. Il a fait, voilà, il faut aller par là, d'accord, on y va. Mais je veux dire, Abrams c'est très fort pour donner, parce que là-dessus, c'est Tom Cruise qui est producteur, pour donner aux producteurs ce qu'ils attendent. Bon, Didi, tu nous refais Star Wars numéro 4, mais avec une femme, s'il te plaît. Et tu le refais sans le refaire, mais tu le refais quand même. Allez, vas-y. Et tu nous mets bien du rétro. Vas-y, vas-y, mon. Alors après, c'est pas aussi casual parce que c'est lui qui est arrivé avec beaucoup d'idées sur justement très dans la reproduction pour Star Trek 7. Et je veux dire, ça a été validé par les producteurs, mais notamment Kennedy. Mais moi, je maintiens que Abrams te donne ce que on va dire le studio veut.
Ouais.
Et ouais, le studio voulait un film carrière, pour des jeunes. Et parce que si tu avais plein de réalisateurs, regarde, alors 2008, je sais pas de quand date le dernier. Justin Lin, par exemple, c'est un vrai amateur de Star Trek. Il a réussi à donner aux producteurs à peu près ce qu'il voulait. D'ailleurs, Abrams a lancé la production. Vous avez pas entendu la dernière de la dernière anecdote de Justin Lin sur Star Trek Beyond?
Non.
Il lui demande de venir dans son bureau, il lui dit je caricature. Bon, voilà, on n'a pas d'idée, t'as une idée toi? Ouais, vaguement, j'ai un truc qui peut être sympa. Ok, on tourne dans 4 mois. Pardon? Allez, vas-y. Donc, Lynn et, comment il s'appelle, les scénaristes dont Simon Pegg n'ont pas arrêté d'écrire, de réécrire pendant les scènes, etc. Que Beyond soit un film, on va dire, aussi qualitatif, avec les conditions d'écriture qu'il a eues, c'est assez prodigieux, même s'il y a des choses à redire sur Beyond. Mais Justin Lin est un vrai amateur, et quelque part, il a insufflé quelque chose de beaucoup plus profond que la destinée pour les nuls et le complot pour les nuls.
Et du coup, comment ça se fait que sa saga de Fast and Furious, ça soit pas mieux? Enfin, j'en ai vu aucun film, mais... Pourquoi il a pas mis du Star Trek dans ses voitures?
Non, mais il a mis ce qu'il sait faire. Il se concentre sur les personnages. Vin Diesel lui donne les orientations sur les sentiments qu'il veut mettre dedans.
Ok.
Et après ça, les films de Justin Lin sont... toujours soit distrayant, soit tu sens qu'il ne te prend pas pour un idiot, il y a toujours un pas de côté, quelque chose là.
D'accord.
Et il essaye d'écrire des personnages que tu vas relativement garder en mémoire.
Ok, bon.
Et de leur donner à chacun un moment d'exister. Ce que tu disais au début là, sur Starfleet, tous les plans larges, le fait que l'équipage existe, tout ça quoi.
Ouais, après, je trouve que l'écriture de personnages dans le 3 n'est pas non plus extraordinaire. Je pense qu'on en reparlera, mais...
Ben, Oui, normalement pas trop celui-là, mais oui, en effet, il y a pas mal de soucis.
Bah, notamment l'alien qui est foutu au milieu, là, qui est peinte en blanche, je sais plus comment elle s'appelle du tout, je l'ai vue avant-hier.
Jayla, jouée par Boutella, Sophia Boutella.
Bah, écoute, elle, genre, à chaque fois que je revois le film, c'est vraiment, ok, tu existes, mais je m'en fous. Vraiment, ah, t'écoutes de la musique humaine des années...
80,
voilà, cool. Ok, c'est ton seul trait de personnalité. Voilà, bisous, on passe à autre chose. Dommage, ça aurait pu être cool, mais ouais. C'est pareil pour Idris Elba, le méchant du 3.
Le méchant,
il y avait quelque chose.
Que les deux premiers.
D'accord.
Ouais, mais on reviendra, on parlera de Justin Lee et de Into Darkness. On
n'arrivera pas à faire un truc organisé, arrête.
Une autre fois, concentrons-nous, on est d'accord. Il y a plein de défauts, mais c'est une autre histoire, c'est un autre sujet. Quoi d'autre sur Gigi ? Qu'est-ce qui va pas ? Allez, on déballe, c'est fini.
Ça se limite à ça, hein, je pense. Non, mais... c'est un Yes Man et du coup, ça a aucune originalité. Voilà, c'est déjà bien.
Ouais, mais
défaut.
Quelque part, il y en a eu d'autres des Yes Man sur la saga. Le réalisateur, je sais même plus son nom, le réalisateur de Nemesis, c'était un Yes Man ?
Non.
Non ?
Non.
Non.
Je le connais personnellement. C'était pas un Yes Man.
Pourquoi ?
Parce que c'est Stuart Bird qui est un très bon monteur et c'est une promotion pour lui qu'il aille sur Nemesis.
D'accord. Sauf que.
C'est dommage.
Il s'en fout de Star Trek. T'es d'accord, Ratel ? On voit bien que Nemesis, c'est pas le Star Trek le plus Star Trek, le plus trekkien de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on déteste plus J.J. que Nemesis ?
Parce que lui, il a prétendu qu'il allait relancer Star Trek en 2009. Des trucs gros blockbusters pour dire on va aller toucher le grand public, tout ça. Il a même pas réussi à toucher le public qui aimait pas Star Trek, genre qui avait jamais vu Star Trek. Et il a énervé les fans.
Si.
En fait,
il a touché au moins 3 personnes. Moi, Guillaume et Margot, puisqu'on est rentrés, on est là aujourd'hui parce qu'on a vu ce film en 2009.
Non, ouais, mais t'avais pas vu Star Trek avant de voir le film.
Ouais.
Il a touché plus de monde
ouais.
que des simples fans de Star Trek. Mais le problème, c'est qu'à part toi, Guillaume et Margot, peu de gens sont véritablement restés et ont poussé la porte au-delà. Parce que ça veut dire que même dans ce qu'il a
présenté,
il n'a pas donné envie à des gens de se dire « Tiens, il y a peut-être quelque chose à voir, un univers qui peut être sympa derrière. »
Mais il a rendu ça chiant. Il a rendu ça, il a rendu ça tout plat. Il a rendu ça Star Wars alors que Star Trek, c'est quand même bon. C'est l'opposé. Hein ?
Ensuite, pourquoi j'aime pas J.J. Abrams ? Parce que c'est un menteur.
Ah...
Il est méchant. Il est. On l'a...
on vas-y, pas. Matou. Approfondis.
C'est Khan ? Non. C'est Khan ? Non.
Je te jure, c'est pas lui. Arrête.
Star Trek 7. Practical Effect. Moi, j'ai tout fait en Practical Effect. Practical Effect.
Ça, c'est Star Wars 7, ouais. Oui,
Star Wars 7.
Voilà. Il y a énormément de plans numériques, etc. Vas-y, raconte la nouvelle. Du coup, quand il a fait le 9. Moi, j'aurais trollé si j'étais journaliste. Au fait, vous le faites en Practical Effect, celui-là aussi ? Non, je sais pas, c'est bon, Practical ou pas Practical ? Dites-nous, quoi. Voilà. D'ailleurs, il faut voir aussi que s'il récupère Star Trek 9, c'est parce que Colin Trevorrow se fait éjecter.
Ouais.
J'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas, comment dire, en sous-main Abrams qui a œuvré pour que, voilà, je n'ai pas dit que Trevorrow aurait fait forcément un grand film ou un bon film, j'en sais rien, mais peut-être qu'il était moins dans ce qu'on voulait et donc Abrams en a profité pour dire dégagez-le, je prendrai sa place. Parce que.
Mais là, tu frôles
ce
le
complotisme. Ce sont des hypothèses. Alors, ouais, allons, c'est... Oui,
non, mais attends, comment ça se passe dans cette industrie ? Tu crois pas que tu vires ton mec et t'as. Oh, Abraham, s'il est arrivé, quoi ? Mais à peine, mais une semaine ou deux après. C'est quand même
mais bien sûr qu'il s'est fait. Non, mais attends, ça par contre, ça peut aussi. Très souvent, d'abord, il choisit ce qu'il va remplacer, ensuite, il vire.
Oui.
C'est souvent dans ce sens-là. Ça veut pas dire que le mec qui va remplacer. à tirer dans le pied de l'autre. C'est...
Bon, après...
Tu sais que c'est des connards.
Après, tout, Warlock, je ne veux pas que je le fasse, là, parce que l'autre, il a fait tout le contraire de ce que je voulais que moi j'avais fait. Je veux tout le troller, moi aussi.
Mais ça aurait pu être DJ Abrams, ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui récupère.
Ben non, je pense qu'Abraham ça a savonné la planche en disant « Si ça va pas, je suis là, moi. Moi, j'ai des idées, moi, je veux troller... »
De toute façon, ça faisait 20 piges qu'il faisait son CV exprès pour qu'on dise « Ah, il serait pas mal pour Star Wars. » Il a enchaîné les projets pour viser Star Wars, donc...
Autre chose aussi, à quel moment Lucas part ?
On n'est pas là pour parler de Star Wars !
Oui, justement. Lucas part. Il y a un moment, il y a quelque chose...
Parce qu'il est vieux !
Il l'a vendu en 2012 ?
Il a vendu en 2012, il a fait on va dire, il va voir l'une des grandes têtes de Disney, pas Bob Iger, mais un autre, Alan Horn, dans un déjeuner, il dit « Je vends, et les prochains films, c'est moi qui décide, je veux pas d'exécutif, j'en réfère qu'à toi et à Bob Iger. » C'est sa position en 2012. On lance un scénariste qui a eu un Oscar, pour écrire des choses, et à un moment Abraham s'est nommé et on apprend que Lucas est complètement dégagé du projet. Abraham avait la possibilité de
le faire revenir
à Lucas, de rester.
Ouais.
Voilà, il a décidé de prendre le film pour lui. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en coulisses, mais il y a quelque chose qui s'est passé, parce que l'intention initiale de Lucas, c'était pas de partir au bout d'un moment dans la pré-production. C'est pour ça d'ailleurs, comme je dis dans le concept art, tu vois très bien le moment où il y a un foisonnement, que c'est pas Abraham qui est arrivé. Quand Abraham s'arrive, hop, voilà. Donc, si on fait le procès, moi je suis désolé d'être à charge, moi je vois qu'il a remplacé Trevorrow, qui a été viré. Est-ce qu'il n'a pas œuvré ? J'en sais rien, mais je suis pute. On a vu qu'il devait travailler avec Lucas. Eh bien, ça ne s'est pas fait. Voilà.
Donc, J.J. Abrams serait une mauvaise personne. Ok.
Je sais pas, le mec a quand même dit, dans la promo aussi, dans le monde, quand il mentait, je ne sais plus ce qu'il a sorti sur Star Trek, qu'il n'était pas fan quand il était gamin, mais qu'il aimait bien, ou un truc comme ça, alors qu'il n'avait jamais rien vu, ou un truc comme ça. Je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas retrouver, mais voilà. Je ne sais pas, moi, j'aime les gens honnêtes, autant que peut faire se peut. Tu peux te planter complètement, si tu as été honnête, je ne vais pas te tirer dessus.
Ça va être dur de trouver des gens honnêtes.
C'est Khan. Non, arrêtez. C'est vraiment, déjà, tu t'es foiré dans ton idée, quoi. Quand tu inventes le twist avant même que le film sorte, ça commence.
Après ça, le twist de Khan, je pense que si t'es trop, tu sais, quand t'es sur un projet, voilà, t'es trop zoomé dessus, t'as pas big picture. Et du coup, pour moi, il y a complètement moyen qu'il ait été convaincu à un moment donné que c'était un bon twist. Hein. Que c'était genre, ah ouais, comme ça, ils vont pas savoir.
Et puis on va dire que c'est Khan. Ouais. Voilà. Bon, donc mauvaise réalisation, mauvais écrit.
Mauvaise réalisation, je sais pas. Si t'aimes l'action hyper surcotée, c'est...
D'accord. Non, c'est vrai que les
scènes de bagarre. On peut pas dire non plus qu'il soit complètement à chier dans ce qu'il fait. C'est pas, ça serait pas honnête.
Ouais, ouais.
C'est l'écriture qui est dégueulasse. Après, la réalisation en elle-même, c'est de l'action. Et
moi, j'aimais bien, vu qu'on est en train de parler de Khan, dans Into Darkness, cette scène assez mémorable où lui et Harrison, Kirk et Harrison, sont sautent d'un vaisseau à un autre en évitant les astéroïdes. C'est un peu con, mais c'est génial. Ça virevolte.
C'était très jeu vidéo. Hein.
C'était assez cool. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il faut ouvrir tes chakras et accepter.
Le HUB qui s'ouvre. Oui, c'est vrai. Et même dans le précédent, cette scène avec le red shirt, là, quand il saute depuis l'Enterprise pour aller sur la foreuse, machin, dans le...
Navette.
Depuis une navette, c'est
complètement irréaliste.
On parlait d'action, c'était fun, quoi. C'était cool.
Ah oui, par contre, c'était fun. C'est toujours pareil.
T'aimes bien le travail des qui n'est pas celui d'Abrams, quoi.
Ah.
Non.
C'est pas
lui qui l'a fait. Storyboard valide, mais après tout le reste dans pas mal de choses, c'est des concept artistes, c'est des infographistes, c'est eux qui font cette scène. Après, lui, il donne des indications, plus ou moins, etc. Mais c'est pas comme diriger un acteur. Vraiment.
Alors, selon toi, du coup, le cinéma d'animation, c'est pas...
Non, mais un cinéma d'animation, c'est différent. Tu as le... Et même, par exemple, le dernier... comment il s'appelle dans le dernier Spider-Man, beaucoup des animateurs se sont plaints pourtant, les producteurs avient fait tempête de boulettes géantes. Ils connaissaient l'animation et tout. Ils disent, mais ils n'ont pas des idées tellement claires. Il faut d'abord qu'on fasse tout, presque la scène avec on va dire, une qualité de film pour qu'après ils nous disent, non, mais en fait, on l'a fait différemment.
Comme dans toutes les productions de cinéma d'animation qui existent, même en Europe. C'est tout le temps ça. Là, j'ai fait Calamity Jane, là, qui est sorti malheureusement pendant le Covid. Ça n'a pas fait du. C'était exactement pareil. Il fallait que pendant ton animatique, c'est pas le storyboard, c'est l'animatique. Parce que storyboard, les producteurs, ils savent pas lire un storyboard. Pendant ton animatique, il faut qu'il y ait les voix def ou au moins une maquette relativement bonne. Ça peut pas être juste un pélos qui fait des voix dans son bureau. Il faut que ce soit surdécoupé à l'américaine. Le storyboard à l'européenne, on fait plus trop. Il faut qu'il y ait les mouvements de cam hyper clairs, il faut que ce soit limite au modèle dans le storyboard, alors que c'est complètement con, t'as pas besoin de faire tes personnages au modèle. Bref, tout ça pour dire, dans le cinéma d'animation, c'est tout le temps comme ça. T'inquiète pas. Inquiète-toi. C'est chiant. Les producteurs, même s'ils produisent de l'animation, ils ne savent pas comment observer la pré-prod d'animation. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils y arrivent pas? Pas me poser la question. Là, j'ai bossé sur un truc pour Ubisoft, c'était pareil. Pourtant, Ubisoft, jeux vidéo, normalement, tu devrais avoir une pipeline, bon, relativement similaire. Mm-hmm. Eh ben non, ça marche pas. C'est chiant.
Donc, les scènes dont tu parles, moi, un metteur en scène, c'est pas là-dessus que je vais l'attendre. Parce que sur cette scène-là dont tu parles, il est bon, de toute façon, là où Abraham, c'est bon pour toute sa mise en scène, c'est pour donner du rythme. Il est très bon pour arriver à enchaîner les péripéties, la mise en scène, relativement fluide pour que ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Ça, je trouve que c'est son vrai talent, il est là.
Ce qui en soi est dur à faire. Hein, donc,
Oui. Il sait donner cette... Mais pour tous ceux qui connaissent un petit peu les sérioles, il y a cette dynamique qu'on retrouve dans les sérioles.
Là, ouais, mais attendez, parce que même là, c'est essoufflant. Moi, j'arrive à la moitié de Star Trek 2009, je m'y pose et je vais boire un verre d'eau parce que j'en peux plus.
Par contre, je suis d'accord, ça va trop vite. En fait, il y a beaucoup d'éléments de scénario. Je trouve ils se sont tirés une balle dans le pied avec le truc de l'univers parallèle parce qu'il fallait mener les personnages au même stade de développement de personnages que dans la série, ce que la série a fait en 3 saisons, en fait. Donc, c'est dur de développer tes personnages et en même temps de faire de l'action comme ça hyper constante et en même temps développer tes personnages, et du coup tu te retrouves avec un rythme où effectivement t'as soit un milliard d'infos en même temps, soit une scène d'action, soit les deux en même temps. Donc fatalement ça va pêcher quelque part, et étant donné qu'Abraham s'il est doué dans les scènes d'action, ça pêche au niveau des personnages. Forcément, ils sont pas très bien
les personnages. Si tu veux qu'ils aient une existence, il faut quand même leur poser une problématique, il faut quand même réfléchir sur ton propos qui va être porté par tes personnages à partir de leur dilemme, et tu dois faire un film, donc ton propos il passe avant les personnages. Là, okay, t'as pas de propos. Ça, 2009, y a pas de propos. Le méchant, il est
méchant.
Très méchant.
Pourquoi?
Parce que sa femme, elle est morte.
Parce qu'il est triste.
Parce que mort d'un membre de la famille, c'est genre le truc de base pour tous les méchants de l'univers. Mais c'est soit ton enfant, soit ta femme, soit ton mari, soit les deux.
Ou des gentils, hein, on le voit dans Star Trek Strange New World, hein, où tous les personnages principaux ont vu un membre de leur famille se faire.
Soit que c'est vraiment écrire un personnage le plus. Lazy, c'est pas le mot français.
Ouais, flemmard.
Flemmard, merci.
Ouais,
flemmard possible.
Ton adversaire doit, à travers la contestation morale, idéologique avec le personnage principal, amener une thématique et un propos.
Voilà. Là, si c'était le racisme, il déteste les Vulcains.
De détruire et de tuer, et parce qu'il est méchant, parce qu'il a trop souffert.
Je sais pas, ça peut être, ça peut marcher. Hein. Il y a des, ouais, y a des voilà. antagonistes où c'est juste ça et ça fonctionne très bien. Je suis désolée, la méchante dans La Belle au Bois Dormant, là, elle est vexée de pas avoir été invitée au mariage. Hein. Donc, et ça fonctionne. Non, tu peux écrire des antagonistes qui sont mais vraiment niveau zéro, voilà, de la complexité d'écriture, oui, et ça fonctionne quand même. Là,
garder une trace de ça, et La Belle au Bois Dormant, il reste un conte. Donc, il y a une symbolique, il y a des choses.
Tu peux écrire un film aujourd'hui en suivant l'écriture de conte. Hein. Là,
et tu le remarqueras que quand Disney décide, avec Angelina Jolie, d'adapter La Belle au Bois Dormant et de donner un Maléfique, finalement, il y a une profondeur.
Oui, mais c'est bah, tu vois, c'est un problème. Ça ne marche pas.
Bah, ça ne marche pas. Ça reste un film qui sort de son conte pour aller sur un propos. On peut discuter que sur du propos, ça ne marche pas. Mais ça reste un film qui a la volonté de raconter quelque chose. Je répète, Star Trek 2009 me raconte quoi?
C'est ouais. divertissement ouais, familial
ouais,
sans,
non,
sans...
Vraiment, enfin, oui, ta femme est morte. Je veux dire, Batman, Mr. Freeze, c'est ça aussi. Hein.
Oui.
C'est exactement la même histoire, Mr. Freeze. Sa femme est morte.
Ce Batman-là 4 n'a que comme intérêt d'essayer d'être une adaptation d'un style de comics et de la série des années 60.
C'est très très divertissant. Moi, mais ça me divertit beaucoup.
Ouais, ça marche.
Le enfin, film marche. Hommage à quelque chose qui est déjà présent dans.
Eh ben, Star Trek, tu vas pas me dire que c'est. Enfin, je sais qu'il l'a raté, mais par défaut, c'est un hommage à la série originale. Même pas voulu, mais. Ils ont testé. T'as le red shirt qui meurt, t'as quelques plans où ils ont essayé de faire où tout le monde se penche d'un côté parce que le vaisseau est. Tout ça. T'as des références quand même, rien que la musique, rien que le thème musical.
La musique, c'est la seule chose que je sauve du film.
J'adore cette musique. Je m'en veux d'adorer, parce que j'aime pas ce film, mais j'adore cette musique.
Oui, mais pour faire un hommage, il faut au moins connaître le matériau d'origine.
Ça, c'est un autre souci. Et après, on a déjà dit que, de toute façon, il avait vexé les fans de Star Trek avec ce film, donc...
Ouais. Bah écoutez, je pense qu'en une heure, on a bien démonté le pauvre Gigi qui a rien demandé, qui doit se dire, mais c'est qui c'est... Pourquoi ils sont méchants comme ça avec moi?
Je m'en fous, je suis millionnaire, je vous en traite.
Voilà.
Restez dans votre vie toute nulle.
Tu sais quoi, il a gagné. Hein, oui, donc bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Voilà, les aigris là derrière leur micro. Ok. Juste,
comment on ose aimer un truc? Bouh.
À travers la carrière de Gigi. Mais tu le disais au début, tu sais, il fait Lost, il se casse, il fait Star Trek, puis il se casse, il fait Star Wars, il n'y a rien. C'est-à-dire, tu sens le personnage qui ne reste pas assez longtemps pour véritablement être atteint par les critiques ou les effets, tu vois.
Ah, mais ça, c'est la cocaïne, c'est pour ça.
Ouais. Voilà,
et encore, on est dans les suspicions, là, les gars, attention. Hein. Il y a des gens qui ont eu des problèmes en disant ce genre de choses.
Non, mais tu remarqueras que depuis Star Trek 9, il a quand même enchaîné, je veux dire, dans une décennie. Tu as fait Star Trek 2009, tu as fait, je crois, en 2012, tu as Into Darkness. En 2015, sort Star Trek 7. Je sais pas
Star
si
Wars
il est autant, 7. Il est aussi producteur et tout, mais il revient pour Star Trek 9.
Non, il va jamais
Star
dire
Wars
ça.
9.
Ça fait une heure qu'il dit Star Trek.
L'étoile de Gigi, elle a quand même sacrément pâli. Hein.
Bah, tu vois, dans l'imaginaire du grand public, je suis pas sûre. Parce que moi, qui ne suis pas fan de Star Wars, j'en ai rien à carrer qu'il ait raté Star Wars. Vraiment. C'est pas de la haine envers Star Wars ni rien. Ça m'est passé complètement au-dessus. Et Star Wars 7, en n'étant pas fan de Star Wars, il est passé crème chez moi. J'ai pas vu tout ce qui allait pas. Je m'en foutais.
Néanmoins, c'est vrai que c'est surprenant qu'il fasse pas, qu'il ait pas signé un contrat avec l'écurie Marvel.
Alors, il a signé un contrat avec Warner.
Avec Warner.
Des choses. Bah, James Gunn est passé par là.
D'accord.
Il est venu, lui. Il a vraiment une charge. C'est-à-dire qu'il y a des contrats qui ont été signés. Il devait faire un film qui lui a été, annulé. Mais je veux dire, on n'est plus dans la réussite. Voilà. Tu prends Gunn. Gunn, il vient, tu sais, d'abord de films assez spéciaux. Marvel vient le chercher pour faire ce qui était pour eux un film de rupture avec les Gardiens de la Galaxie. Maintenant, il a la tête de DC. Je veux dire, James Gunn peut dire beaucoup de choses, mais il y a, je trouve, plus d'authenticité et quelque part plus de, on va dire, de manière à construire sur le long terme. Ce mec était, je veux dire, un tout petit réalisateur que on va chercher chez Marvel. À l'opposé, Abrams a travaillé donc sur Mission Impossible, Star Trek, Star Wars.
Il a créé sa propre franchise aussi avec, enfin sa propre truc avec ah, flûte, on l'a évoqué au tout début.
C'était pas Alias Super 8?
Non.
C'était quoi que tu... Je sais plus.
Le monstre qui détruit New York.
Godzilla, non.
Oh, mais c'est pas vrai ce soir.
Ah oui, Field,
Cloverfield.
Cloverfield. Voilà.
Il a aussi fait ça, ouais. Non, mais c'est bon. Oui, ça reste quand même une petite réussite parce que ça nous a fait découvrir Matt Reeves. Il a fait bosser aussi.
Mais bon, du coup, il a pas réel dessus quoi. Il a donné les clés à quelqu'un qui. Mec,
dont j'ai perdu le nom. Bon, bref. Mais ouais, non, il y a quand même quelques petits trucs au milieu de.
C'est ce que je te disais au début. Hein, je trouve qu'il est beaucoup, il est meilleur producteur que réalisateur. Hein.
Oui, je pense aussi. Je pense qu'il est meilleur producteur qui n'est, on va dire, artiste. Hein. Mais Matt Reeves, avec qui Abraham s'est très ami, ils ont débuté ensemble. Regarde un Matt Reeves, il t'a donné quand même beaucoup plus.
La planète des singes.
Oui, Cloverfield, la planète des singes, et The Batman.
Le nouveau Batman, ouais.
Parce que, attends, on a oublié un petit truc. Hein, c'est notre Gigi. Hein, Gigi. Vous m'expliquez pourquoi ces films coûtent autant?
Les CGI, les stars.
Non, justement.
On peut décortiquer les budgets hollywoodiens parce qu'il n'y a pas que J.J. Abrams. Hein, là,
Non, mais Matt Reeves, quand il fait la planète des singes, il prend pas autant. Hein.
Mais c'est pas le même scope de décor et de.
Ouais, et d'acteur. Batman. Non,
hein Batman Batman, je l'ai oui. pas vu. Je ne saurais pas te dire.
Batman, c'est 100 millions.
Ah, mais moi, je fais partie des gens qui considèrent que les films devraient coûter, allez, 20 millions à tout péter. Hein. ça me va très bien, 20 millions.
Non, mais je veux dire...
100 millions, c'est beaucoup moins ce qu'un...
Ouais. Tu peux encore faire des films avec de l'action, etc., qui ne sont pas obligés de coûter autant. En revanche, si tu estimes que tu veux faire et dépenser énormément d'argent pour un décor qui ne servira plus jamais juste parce que tu veux, comme un caprice, parce que tu as envie, ben, ça pose une question aussi en tant que metteur en scène. Moi j'ai toujours prenant George Lucas il comptait ses sous pour avoir une simple raison que c'était son pognon personnel qui était mis dans les films à partir de l'Empire Contre-Attaque et il mettait de l'argent sauf que quand c'était pas possible etc. Donc moi j'ai toujours respecté des gens qui essayent de se mettre des limites parce que ça les rend encore plus créatifs. Parce que si c'est juste « Oh, je vais mettre de l'argent, je vais mettre de l'argent, je vais mettre de l'argent », c'est pas forcément les meilleures idées parce que tu as l'argent pour réaliser tout et son contraire. Encore une fois, Matt Reeves, quelqu'un qui fait son bonhomme de chemin parce qu'il arrive vraiment bien à gérer ses budgets. The Batman, 100 millions.
Je serais curieuse du traitement des CGI artistes sur The Batman, du coup.
Ben, il a fait en sorte qu'il y ait moins...
Malheureusement, c'est lui qui en pâtisse, hein, la plupart du temps, donc...
Puis, il a fait en sorte qu'il y ait moins de scènes avec des CGI.
Oui, mais ça, par contre, on en parlait la dernière fois qu'on avait fait le truc sur Star Trek. Moi, les CGI, j'en ai marre que ce soit utilisé comme de l'animation, en fait. Il faudrait que ce soit là pour cacher les défauts des effets spéciaux en dur, mais pas du tout pour faire des scènes entières d'effets spéciaux. Je trouve ça dégueulasse à chaque fois. Même quand on dit ça a bien vieilli, genre on a dit 2009, Star Trek 2009, il avait bien vieilli. Eh ben moi, je trouve ça quand même vachement plus dégueulasse que les effets spéciaux de la série des années 60 où c'était des maquettes. Certes, tu vois le fil. Il y est. Je m'en fous. J'ai l'impression de pouvoir toucher le vaisseau, donc c'est mieux. De base. Enfin, bref, mais ça, c'est autre chose. Les CGI, c'est compliqué. Voilà. Et les budgets à tout péter, là, dont tu parlais, généralement, ça passe dans les CGI. Parce que il y a quelqu'un qui avait fait une visualisation de, en gros, les équipes qui existent sur une production américaine. T'as genre 10 acteurs, 3 producteurs, éventuellement tous les make-up, les designs de costumes, les décors, tout ça. Et si tu dézoomes l'équipe CGI, mais c'est...
15 000 personnes.
C'est des milliers et des milliers, ouais, de personnes, ouais, parce qu'ils font tout le film, en fait. Et par contre, ils n'ont pas... tu vois, ils n'ont pas de... Comment on dit en français? J'en ai marre d'oublier mes mots en français, ça m'énerve. Union, en français, c'est les...
Comment?
Syndicats. Ils ne sont pas syndiqués aux États-Unis. Donc, ils ne coûtent pas cher. Et ils font plein d'air sup. Et ils sont maltraités. Et ils font tous des burn-out à 25 ans. Et c'est génial. J'adore le cinéma.
Alors, j'ai une question pour toi.
Et...
Est-ce que Avatar est encore un film ou c'est un film d'animation?
Non, c'est un putain de film d'animation. J'en ai marre. C'est de l'animation. Tu peux me dire que t'as fait de la motion capture autant que tu veux. Motion capture, quand t'es animateur, je veux dire un truc, ça ne sert quasiment à rien, ta motion capture à la con. Tu vas tout refaire quand t'es animateur, de toute façon. Surtout quand t'as des modèles aussi différents que la corpulence des acteurs qui ont fait la motion capture. Ça m'énerve. Avatar, ça m'énerve. Il faut pas me lancer sur Avatar. Je déteste Avatar, par principe.
On fera le procès de Cameron lors d'un autre enregistrement. Ça marche. Mais écoute, je pense qu'on va quand même s'arrêter là. Voilà pourquoi on va pas faire 5h30 sur pourquoi J.J. Abrams ça va pas. Notre petite heure et quart suffira amplement, je pense. C'est bon, une petite dernière chose à dire, Matou, sur Gigi.
J'aime pas sa gueule.
Oh non, ça par contre non, tu vois, t'attaques tout sauf le physique, c'est pas sympa. Non, n'étant pas gâté par la nature, moi non plus, je proteste.
Je vais être franc. Moi, je trouve que J.J. Abrams est un beau mec, franchement.
Bah alors du coup...
Quoi ? Mais j'aime pas sa gueule.
Il a une tête à claque.
Ah, il
y
a une tête à claque, d'accord. Okay.
Non,
ça c'est autre chose.
Pas tête à claque, je trouve que quand tu le regardes bien, moi je trouve que c'est vraiment un beau mec.
Ok.
C'est bizarre comme ça. Franchement, en plus, dis par le seul mec qui a pas activé sa caméra là pour qu'on discute. D'accord. Bon, bah finalement, okay. Ça finit en fangirling de J.J. Abrams. Ça marche.
Rattle Rock, un dernier petit tacle à Gigi.
Moi, je trouve qu'il a une tête à claque. Hein. Je saurais pas dire s'il est beau gosse ou pas, mais il a une tête à claque.
Je trouve aussi qu'il a une tête à claque. Perso, Macron, Abrams, le fight est assez proche. Hein.
Je donne plus de claques à Macron qu'à Abrams.
Voilà, mais parce qu'il y a un passif encore plus fort. Mais bon, ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour votre participation à cette émission. Je me tourne vers les auditeurs, auditrices. Dites-nous pourquoi vous détestez J.J. Abrams.
Tu vois, que des gens qui l'adorent. Non,
si vous l'aimez, venez en discuter avec nous sur le Discord de Star Trek pour les nuls. Vous avez le lien évidemment dans la description. Rattle Rock, t'en es où là de tes vidéos?
Qu'est-ce qui va bientôt se passer? Dans 8 mois, ouais, à peu près, quand j'aurai fini l'écriture.
Et t'as pas un interview avec Gigi normalement bientôt?
Si, le 15 février là, ça arrive.
Waouh!
Yeah, wanna.
Et du coup, tu vas lui redire tout ce qu'on a dit ou...
Hey. Hey, comment ça va se passer? Non, mais voilà. Donc, oui, donc là, on est dans l'attente de ta prochaine vidéo.
Ouais, moi
aussi.
Le sujet
n'est pas du tout secret. Hein. C'est,
non, c'est animal.
Ce sera donc sur le seigneur. Le seigneur. N'importe
le quoi. Seigneur des tueurs en série, Hannibal Lecter, tu as raison.
Oh, bien, bravo, merci. Bravo. Et on peut te retrouver, par contre, régulièrement sur Twitch, où tu fais soit du montage, soit de la recherche.
Bah, du coup, récemment, c'était surtout craché sur les bouquins de Thomas Harris. Voilà. Fatalement, pendant 3 heures d'affilée, juste le tacler.
Il y a Abraham qui veut adapter un bouquin de Thomas Harris.
Chut, ah putain, les deux mélangés, non. Oui.
Ah. Vite, le tueur, vite.
Ah. Mais écoute, j'en peux plus.
Vous retrouvez les liens dans la description de cet épisode, voilà, vers la chaîne YouTube, vers la chaîne Twitch et vers le Discord de Star Trek pour les nuls et la chaîne Twitch de Star Trek pour les nuls. J'ai pas streamé depuis je sais plus, l'été dernier au moins, mais bon, peut-être que je reprendrai un jour. Merci beaucoup Rattle Rock, à très bientôt. On se retrouve, tu reviens quand tu veux, la lumière est... La mais porte est toujours ouverte. Il y a de la lumière. Bientôt.
Mais, d'accord, je vais peut-être pas venir du coup.
On nage. À bientôt, Matou. Bon, toi, tu es convoqué régulièrement, donc il n'y a pas de problème, tu le sais.
Ouais, t'as pas le choix.
Voilà. Et bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Ciao.
Ciao.
Au revoir.
We'll be right back.